Et bonsoir à vous qui nous rejoignez sur le net et sur la télévision. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, je dois vous dire quelque chose. Au temps de l'apôtre Paul, il y avait déjà des gens qui glissaient, qui passaient vers un autre évangile. Je voudrais qu'on lise ça dans Galates 1, chapitre 1, verset 6. À 9, Galates. Alors, j'ai plein de notes, mais je n'ai pas noté celui-là. Galates 1. Voilà, verset 6 à 9. Je m'étonne de ce que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui qui vous a, que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Amen. La grande question, donc, pour nous tous qui écoutons ce message, là, ce soir, c'est de savoir, qu'est-ce que l'évangile, le vrai, l'authentique, qu'est-ce que c'est? Il y avait une prédication de frère Branham qui disait que Jésus était venu donner l'évangile et non pas l'interprétation de l'évangile. Aujourd'hui, on a tellement d'interprétations différentes que c'est vrai que c'est dit. Ça peut être difficile des fois de savoir où on en est. Jésus-Christ est venu pour nous sauver. C'est son évangile, sa bonne nouvelle, c'est ce que la Bible appelle l'évangile de Christ. C'est clairement écrit. 2 Corinthiens 10, 14, je vous lis ça. 2 Corinthiens 10, 14. Nous ne dépassons point nos limites comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Alors, l'évangile de Christ. L'apôtre Paul parle aussi de l'évangile de la grâce. Il dit, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, le ministère que j'ai reçu et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer l'évangile de la grâce de Dieu. On trouve ça dans Actes 20 et au verset 24. Dans Romains 1, Paul parle encore de l'évangile de Dieu, et il affirme que l'évangile de Dieu tire son origine de l'amour de Dieu pour les hommes. On trouve ça dans Tite 3, 4. Et que cet évangile avait été promis avant, longtemps avant, de la part de Dieu par les prophètes. On trouve ça, ces prophéties, dans Ésaïe 40, verset 9, Ésaïe 41, verset 27, 52, 7, 66 et 61, 1, et puis bon, beaucoup, beaucoup d'autres textes des prophètes. Et que cet évangile de Dieu concernait son fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ est notre Seigneur et par lui nous avons reçu la grâce. C'est ce que Paul dit, on trouve ça dans Romains 1, 3, 4. Vous voyez ce qu'est l'évangile? C'est l'évangile de Christ, c'est l'évangile de la grâce, c'est l'évangile de Dieu. Et il est encore dit qu'il est l'évangile de la gloire. On va lire 2 Corinthiens 4, 4. 2 Corinthiens 4, on va même lire 3, 4, comme ça, ça sera plus compréhensible. L'évangile, 2 Corinthiens 4, verset, on commence au verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il parle de son évangile là, vous voyez. S'il est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, l'évangile de la gloire de Christ, qui est lui-même l'image de Dieu. Alors, c'est la bonne nouvelle de l'évangile de la gloire. Alors, l'évangile de Christ, l'évangile de la grâce, l'évangile de Dieu, l'évangile de la gloire. Et qu'est-ce que c'est l'évangile de la gloire? C'est la bonne nouvelle de la gloire. Hein? C'est écrit quelque part, « Réveille-toi, toi qui dors, et Christ éclairera. » Et je ne sais plus comment ça se tourne, mais qu'à la fin, c'est après la difficulté, c'est la gloire. L'évangile de la gloire, c'est la bonne nouvelle. Tenez-vous bien, au travers des souffrances de Jésus qui nous conduit à la gloire. C'est écrit dans Hébreux 10, c'est par les souffrances, par ses souffrances qu'il nous conduit dans la gloire. Et c'est pourquoi, il continue en disant, faisant partie de son corps, nous souffrons, nous, ici-bas, afin de partager sa gloire dans le monde futur. C'est ça l'évangile de la gloire. L'évangile de la gloire, il est parfait. C'est une bonne nouvelle. Il est parfait et il contient en lui-même tout un enseignement, tout l'enseignement du pourquoi de nos souffrances terrestres. Voilà pourquoi il y a l'évangile de la gloire. C'est le but, c'est la gloire finale. L'évangile de Christ, l'évangile de Dieu, l'évangile de la grâce, l'évangile de la gloire, tout ça c'est quelque chose de très complet qui nous fait comprendre que c'est par les souffrances de Christ que nous pourrons hériter de la gloire. Romains 8, 17, on va lire. Romains 8, 17, c'est un passage magnifique. Romains 8, 17, je vous mets au défi de me trouver un passage qui n'est pas magnifique. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritier de Dieu, co-héritier de Christ, et puis on pourrait s'arrêter là en disant « Alléluia !» Non, on ne s'arrête pas. Héritier de Dieu, co-héritier de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Voilà l'évangile de la gloire. Vous serez glorifiés avec lui si vous souffrez avec lui. Souffrez-vous avec Jésus ou souffrez-vous sans Jésus ? C'est ça la question. Est-ce que vous souffrez avec Jésus, en communion avec Jésus, ou est-ce que vous souffrez tout seul? C'est ça la question. Tous, nous avons notre lot de souffrance. Même les païens, ils ont leur lot de souffrance, et même les chrétiens ont leur lot de souffrance à porter ici-bas. Comment gérez-vous votre lot personnel de souffrance? C'est ça la question. Est-ce que vous le gérez dans l'acceptation? Oui, j'accepte de souffrir avec Christ et je rajoute dans mon corps, dans ma vie, dans les souffrances qui manquent à celles de Christ parce que je veux souffrir avec lui, je ne vais pas souffrir sans lui, je vais souffrir avec lui afin d'hériter avec lui de la gloire. Ou bien est-ce que vous souffrez dans la révolte, dans les plaintes, dans les murmures, dans toutes ces choses négatives? C'est pas rigolo de souffrir. Qui n'a pas souffert? Qui ne souffre pas? Depuis que je suis chrétien, je crois que j'ai été à peu près 15 jours avant de connaître le rejet dans l'Église, qui s'est prononcé de plus en plus jusqu'à ce que vraiment il y ait cassure, qu'il y ait vraiment coupure, et que je comprenne que ce n'était pas seulement les hommes qui rejetaient, mais que c'était Dieu qui me disait « Sors! Sors de ça !» Et puis... toutes les autres souffrances, la perte d'un enfant, la maladie de mon épouse, et puis ensuite moi, enfin vous connaissez ma vie, pour vous qui vivez en communauté avec moi, vous me connaissez. Comment est-ce qu'on ne rigole pas de ça? On ne s'amuse pas avec ça, c'est des souffrances, c'est réellement des souffrances. Jésus, quand il était sur la croix, il ne chantait pas « Je souffre pour la gloire de Dieu, alléluia !» Non, 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 il souffrait réellement. Et nous souffrons réellement, mais nous souffrons comment? Dans l'acceptation, parce que nous comprenons que nous sommes en train de rajouter dans notre propre corps, dans notre propre vie, ce qui manque aux souffrances de Christ, qui est lui la tête et nous ne sommes le corps, ou est-ce que nous souffrons dans la révolte et dans les questionnements et dans la révolte, en disant, mais Dieu, alors que fait Dieu? Celui qui souffre avec Christ, il souffre comme Christ, c'est-à-dire dignement. Ça ne veut pas dire qu'il ne pleure pas. Ça ne veut pas dire qu'il a pas mal. Mais aussi, celui qui souffre avec Christ, il souffre pour les mêmes raisons que Christ. Cet évangile, il n'est pas tellement apprécié dans l'église des Laodicéens, pas du tout même. Mais pour croire et vivre l'évangile de la gloire dont nous parle 2 Corinthiens 4:4, qu'on a lu là tout à l'heure, il nous faut absolument accepter tout ce que cela comporte. Nous ne pourrons pas vivre l'évangile de la gloire sans cela, ce n'est pas possible. Et puis depuis toujours, vous lisez même dans les Proverbes 15, 33, il est dit, l'humilité précède la gloire. L'humilité. Alors l'humilité. Oui, mais l'humilité. Paul, il parle un petit peu autrement, il emploie un autre mot dans la famille humilité, il emploie le mot humiliation, Philippiens 4, 12. Il dit, moi je sais vivre dans l'humiliation, et il était humilié. Par toutes sortes de problèmes, par toutes sortes de difficultés, et même certainement des maladies aussi. Nos souffrances nous humilient. Hein, peut-être que certains auditeurs, certaines personnes sur Internet ne savent pas, mais cet hiver, j'ai fait 2 otites, puis je n'ai pas soigné ça, parce que j'avais plein de choses à faire, il fallait que je cours partout, je n'ai pas soigné ça, et j'ai perdu 36% d'audition. Et je pensais, ça va revenir, ben, c'est parvenu, hein. Alors j'étais obligé de me dire, il faut que je porte maintenant un appareil parce que j'entends plus rien de ce que les gens disent. Moi, le prédicateur qui fait des miracles au nom de Jésus partout, alors maintenant il faut que je porte des appareils, 2 espèces de frigidaires derrière mes oreilles. Mais quelle horreur! J'étais humilié par ça. Dieu a vu, il m'a donné un petit cadeau et je porte un appareil que personne ne voit. Vous voyez vous-même qui avez la télévision, vous pouvez voir, on voit rien du tout. Mais c'est humiliant! C'est humiliant! C'est terrible, ça vous fait rigoler, mais moi ça ne m'a pas fait rire. Hein. C'est une souffrance, c'est humiliant. Et Paul, il savait vivre dans l'humiliation, ça m'a réconforté. Nos souffrances nous humilient, votre souffrance vous humilie. Et si vous gérez bien votre humiliation, ça veut dire quoi bien gérer votre humiliation? C'est-à-dire la gérer spirituellement. Tout à l'heure, Alain nous a fait chanter ce chant. Je ne sais plus exactement comment ça va, mais si ça ne va pas, si tu es malheureux, va vers l'Éternel. Je ne me rappelle plus que c'est exactement les paroles. Mets-toi dans la présence de Dieu, prie et tout. Et oui, c'est ça. Gérer spirituellement, aller dans la prière. Et puis, dans la louange aussi, louer Dieu en toutes choses. Merci pour les 36% que j'ai perdus. Puis voilà, puis moi, là, je peux trouver un truc pour les retrouver. Ben, merci Seigneur. Mais c'est quand même humiliant, hein? Et si nous gérons bien, c'est-à-dire si nous gérons bien cette humiliation, eh bien cela nous conduira à une véritable humilité et finalement à la gloire. Dieu ne veut pas qu'on puisse se présenter devant le corps de Christ qui est souffrant sans souffrir nous-mêmes. Et lui-même, il est venu et il a souffert aussi. C'est comme ça, parce que ça fait partie du plan. Paul parle de son corps d'humiliation, pour lui son corps l'humilié. D'être moche, hein. C'est son corps d'humiliation, parce qu'il aurait tellement voulu faire des tas de choses, mais son corps l'en empêchait. On est empêché par notre corps, on est fatigué. Hier, je suis allé à Paris, je suis rentré, j'étais sur les genoux. J'avais mal partout. Mon corps d'humiliation, qui a 65 ans bientôt, il en a marre de ce que je fais, parce que je veux faire des choses comme quand j'avais 20 ans, et c'est pas possible. C'est un corps d'humiliation. Vous n'avez pas un corps d'humiliation? Bien sûr. Et Jésus s'est rendu humble, il s'est rendu humble. Comment? En se rendant obéissance. Humiliant pour lui d'obéir. Humiliant. Hein? Lui qui était, il faisait ça, et puis tout était fait. Ben non, il obéit. Il obéit. Paul, il savait aussi vivre comme ça. Et cet évangile de Christ, cet évangile de la grâce, cet évangile de Dieu, cet évangile de la gloire, c'est aussi ce que Éphésiens 1, 13 appelle l'évangile de notre salut. en Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Vous avez cru quoi ? Ben, vous avez cru tout l'évangile de la gloire, dont je viens de vous parler, tout l'évangile de Christ, tout l'évangile de Dieu, tout l'évangile de la grâce. Et parce que vous avez cru, Paul dit, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de votre héritage. Et ce n'est que cet évangile-là qui est l'évangile de la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, dont Romains 1, 26 nous parle. Pas autrement. Si ce n'est pas en cela que vous croyez, vous avez un faux évangile. Si ce n'est pas ce que je vous dis là ce soir que vous croyez, vous avez un faux évangile. Si vous ne croyez pas dans les vertus de la souffrance, vous avez un faux évangile. Si vous êtes toujours en train de fuir la souffrance ou de vous plaindre ou de gémir, c'est que vous avez un faux évangile ou que vous n'êtes pas soumis ou que vous n'acceptez pas de vous humilier en obéissant au plan de Dieu. Qui est le plan pour vous ? Votre problème n'est pas le mien, mais croyez-moi, j'ai beaucoup de peine avec le mien. J'aimerais bien savoir comment vous feriez si vous avez mon problème. Vous croyez un évangile qui est faux. Il y en a qui croient dans une espèce d'évangile bisounours de prospérité, sans sanctification. Ça n'existe pas. Il y en a qui croient un évangile de promesses, sans contrainte. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'évangile comme ça. Ça n'existe pas. Il y en a qui croient dans un évangile de prière exaucée à tous les coups, quand on dit au nom de Jésus, hein, n'est-ce pas ? Mais sans obéissance préalable, ça n'existe pas. Un évangile de prière sans obéissance, ça n'existe pas. Il n'y a pas de bonne nouvelle de Dieu qui va t'écouter puis qui va te bénir si tu n'obéis pas. Ça n'existe pas. C'est un faux évangile. C'est faux. Tu peux faire les pieds au mur, tu peux pleurer, tu peux faire ce que tu veux. C'est faux. Il y avait déjà des gens comme ça au temps de l'apôtre Paul qui croyaient les évangiles, mais ils disaient, je ne comprends pas comment vous avez fait pour en arriver là. Pourtant, je vous ai dit la vérité. Comment ? Comment c'est possible que vous en soyez arrivés là ? L'évangile est un évangile de paix, nous dit Éphésiens 6, 15. Oui, mais il y a un prix. La paix, elle n'est que pour ceux qui veulent ce que Dieu veut. Et regardez, par exemple, comment Dieu a dirigé les choses pour que, au début de cette année, je vous donne ce petit livret que j'avais écrit au sujet de ma volonté, de la volonté, ma volonté et la volonté de Dieu. Je vous ai donné ça en début d'année. Est-ce que vous l'avez vraiment, réellement, bien et profondément médité ? Paix aux hommes de bonne volonté, paix aux hommes qui veulent ce que Dieu veut. Sinon, c'est un faux évangile. Un évangile qui pense que, à force de gueuler, à force de répéter des trucs, on va pouvoir faire changer l'idée que Dieu a au sujet de notre avenir, au sujet de nos souffrances, au sujet de notre personnalité. Ah oui, si je prie suffisamment, je vais changer de personnalité. T'as vu ça où ? Je serai toujours Michel Janton, vous serez toujours Monsieur Philippe Pimbert, vous serez toujours Francis Bélanger. Puis voilà, on est comme ça. Puis... Mais avec le Seigneur, on fait des progrès par son esprit, pas parce qu'on prie, parce qu'on jeûne, parce qu'on rouspète, parce qu'on... Non, c'est parce qu'on se soumet, parce qu'on s'humilie, parce qu'on accepte cet évangile-là, sachant que c'est la gloire qui nous attend. Et septièmement, c'est l'évangile du royaume. Il est énoncé par Jean-Baptiste, puis par Jésus, puis par les disciples. Et vous savez jusque quand il était annoncé ? Jusqu'à la crucifixion. Depuis la crucifixion, c'est fini. Plus personne ne prêche l'évangile du royaume. Pourquoi ? Parce que quelque chose de spécial est arrivé. Le message était l'évangile du royaume des cieux qui est proche. Matthieu 4, 17. Et puis, il y a eu la croix. Et l'évangile du royaume est passé en arrière-plan. Le royaume existe, mais pas comme les gens pensent. C'est un petit peu comme le Messie est venu, mais pas comme les Juifs pensaient. Et il est très difficile pour certains chrétiens de comprendre que le royaume est là, mais pas comme on voudrait vraiment, pas comme c'est écrit, avec des victoires tout le temps, avec la prospérité tout le temps, avec la réussite tout le temps. Avec... Non, c'est pas ça. Le royaume existe, mais il n'est manifesté qu'au travers d'un mystère. Et ce mystère, c'est l'Église. Et je vous lire Éphésiens chapitre 3, versets 8 à 11. Éphésiens 3, 8 à 11. Écoutez bien, Paul qui parle, il dit « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Il annonce des trucs incompréhensibles. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu, qui a créé toute chose, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu. Avec confiance. Jésus avait annoncé l'Église, son Église, on trouve ça dans Matthieu 16, 18, il dit je bâtirai mon Église, et voilà, c'est ça, nous y sommes. Il a bâti son Église et nous y sommes. Et nous sommes dans quoi? Ben, dans ce qui est un mystère pour les Juifs et une aberration pour le monde. On est vraiment mal, hein? On est mal placé là, hein? Le royaume. Et puis alors attendez, en plus, dans l'Église, il y a aussi ceux qui se disent l'Église et qui disent que nous sommes une secte, que nous sommes méchants, que nous sommes pourris, que nous sommes hérétiques. On est encore au plus bas de tout ce que je crois, de tout ce qui peut être plus bas. Le royaume de Dieu, il apparaîtra lorsque Jésus viendra comme roi sur la terre, lors de la moisson dont Matthieu 13, 39-43 parle quand il séparera les boucs avec les brebis, puis il commencera à régner. C'est là que nous partagerons sa gloire. Mais pas maintenant, pas encore. On aimerait bien, hein? Mais non, ce n'est pas comme ça. Maintenant, c'est une parenthèse dans l'histoire. L'évangile du royaume n'est pas encore prêché, n'est pas encore vraiment manifesté. En ce moment, c'est le temps de la grâce. Les derniers préparatifs se terminent. Quel préparatif? La préparation de la fiancée de Christ. Je regardais les photos d'Esther en train de mettre sa robe de mariée. Hein. C'était les derniers moments où elle était fiancée. Et puis après, elle était mariée. Mais là, c'était un moment terrible. Et bien, c'est ça, là. En ce moment, c'est les derniers préparatifs. Alors, on n'essaye plus la robe. On la met, hein, là. On met la robe parce que l'époux vient. Et la fiancée, elle est appelée à changer de monde, à sortir hors du monde par la sanctification du Saint-Esprit et par la foi agissante en la parole de vérité. C'est écrit dans 2 Thessaloniciens 2, 13. Alors, est-ce que je vous ai prêché le vrai évangile durant toutes ces années? Est-ce que ce que je vous dis là ce soir, vous ne l'avez pas déjà entendu? Est-ce que vous ne m'avez pas déjà entendu prêcher ça? Ça fait des dizaines d'années que je prêche ça. Vous ai-je conduit dans un autre évangile que celui-là? Dans un évangile qui exclut la grâce de Dieu, son amour? Est-ce que je vous ai conduit dans un évangile qui mélange la grâce et la loi, comme on trouve dans Galates 3, 1, 5? Est-ce que je vous ai conduit dans un évangile qui renie le seul maître, Jésus-Christ, notre seul Seigneur? Alors, mes frères et sœurs, en rajoutant ce que le Seigneur m'a donné, je n'ai pas ajouté à l'évangile, je n'ai pas prêché un autre évangile, je n'ai fait que de rajouter dans nos jours ce qui avait été retranché autrefois. C'est très différent. Ce que je vous enseigne, ce n'est pas un nouvel évangile, c'est l'évangile rétabli et qui va vers sa plénitude. Parce que ce n'est pas encore fini. Vous voyez, le terme évangile, quand il dit, comment ça se fait que vous avez accepté un autre évangile, bien qu'il n'y ait pas d'autre évangile, mais vous êtes sorti du véritable évangile que je vous enseigne. Comment ça se fait? Le terme évangile, il désigne les divers aspects de la bonne nouvelle, les divers aspects de la révélation divine. Mais ça ne signifie pas qu'il y a plusieurs évangiles, il y a plusieurs aspects. Par exemple, celui de la souffrance. Ben voilà. Il n'y a pas beaucoup qui prêchent cet évangile-là. C'est l'évangile de la gloire, pourtant. Alors, souffrez un peu en vous humiliant devant Dieu, donc devant son évangile, parce que son évangile vient de lui, pour vous humilier un peu, pour accepter, pour croire. Vous savez, Dieu, on ne le comprend pas, on le croit. Dieu, on ne le comprend pas, on le croit. Ça pourrait être la prédication, le titre de la prédication de ce soir. Vous n'êtes pas responsable de ce que je vous dis de la part du Seigneur. Moi, j'en suis responsable. Mais vous, vous êtes responsable de la croyance en ce que je vous dis. Qu'est-ce que Jérémie 8, 7 disait en parlant du peuple ? Il disait, même les cigognes connaissent dans les cieux leur saison, la tourterelle, l'hirondelle, et même les grues, elles observent le temps de leur arrivée, de l'arrivée de leur saison. Mais mon peuple ne connaît pas la parole de l'Éternel. Et Jésus reprend, puis il dit, vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Matthieu 16, 3. Frères et sœurs, si vous voulez voir des miracles dans votre vie, si vous voulez voir des miracles dans votre vie, commencez par reconnaître et croire ce que Dieu fait sous vos yeux. Et il le fait pour vous appeler à la repentance. Et c'est seulement lorsque vous aurez adopté une attitude humble que vous pourrez alors constater avec un très grand étonnement que finalement la puissance de Dieu se met à agir dans votre vie. Tout simplement parce qu'en adoptant cette attitude, vous serez entré participant à son plan de l'évangile, du salut, de la grâce de Christ, de toutes ces choses. Dieu, on le sait, est illimité. Et dans les églises et partout où je vais, j'entends et je vois des gens qui prient en disant « Oh Dieu, tu es tout puissant, oh Dieu, tu es illimité, tout. » Puis bon, il est illimité dans sa capacité d'action, illimité. C'est pourquoi on peut prier avec foi, mais ce sont les péchés qui empêchent Dieu de vous écouter et d'agir favorablement dans sa grâce. C'est écrit dans Ésaïe 59. On aime bien Ésaïe 53, on aime un peu moins Ésaïe 59, mais c'est aussi à prêcher. Ésaïe 59, 1 à 4. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver. Vous sauver de quoi ? Ben de vos souffrances, par exemple. Il peut vous sauver de vos souffrances. Il ne veut pas que vous soyez éprouvé au-delà de vos forces. Il ne veut pas. Mais il ne peut pas vous entendre si vous êtes dans le péché. C'est quoi le péché ? Ben, c'est de murmurer. C'est de râler. C'est de persister dans cette idée que vous avez, qui est fausse. Et c'est toutes ces autres choses que vous connaissez, vos propres péchés. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, il vous entend. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ça l'empêche de vous écouter. Alors vous pouvez prier inéternam. Inéternel, ça ne changera rien. Ça ne changera pas plus que les prières faites par nos propres frères égarés de l'Église catholique. Rien. Quel malheur! Et qu'est-ce que tu nous prêches là comme évangile là? C'est lequel? Ben, c'est celui un peu que Jean-Baptiste prêchait parce que le peuple en avait besoin. Vous lirez Luc 14, 17, 18. Vous allez voir comment il leur prêchait l'évangile. L'évangile, il est septuple. Il est l'évangile de Christ, l'évangile de Dieu, l'évangile de la grâce, l'évangile de la gloire, l'évangile de votre salut, l'évangile du royaume, l'évangile de la puissance. Et aujourd'hui, cet évangile, il est en train de retrouver sa plénitude. Ça passe par la connaissance. Ensuite, votre reconnaissance. Alors que nous sommes en train de vivre dans le temps du rétablissement de toutes choses. Nous sommes comme Noé. Il a dit qu'avant son retour, ça serait comme au temps de Noé. Et nous sommes comme Noé, nous avons reçu l'ordre d'entrer dans l'arche. Et nous sommes entrés dans l'arche. Et Dieu a dit à Noé, rentre dans l'arche, et il lui a donné une date. Il lui a dit, dans 7 jours, je vais tout détruire. Alors, ne vous offrez pas le luxe, ne vous permettez pas, ne permettez pas à votre chair de sortir du septuple évangile. Restez bien ferme dans le septuple évangile, avec ses principes, avec ses lois, avec ses ordonnances, avec ses conseils, avec ses promesses, avec tout ça. C'est un tout. Parce que c'est là que se situe, c'est là que se trouve l'alliance. Il a fait avec vous une alliance bien coordonnée, en tout point bien coordonnée. Mais encore faut-il que vous soyez dans, là où il faut. Si vous êtes hors de l'arche quand il ferme la porte, vous allez me dire, je ne suis pas hors de l'arche. Si on peut être dans l'arche physiquement, mais pas spirituellement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est grave. Frères et sœurs, moi j'attends une chose, Dieu va nous révéler encore d'autres choses avant de fermer la porte. Puis la dernière chose qu'il va nous révéler, c'est la date. Parce que il y a une fausse croyance dans l'Église, parce qu'on ne comprend pas bien l'Évangile. La date que nul homme ne peut savoir, que même Jésus ne connaissait pas ni le jour ni l'heure, ce n'est pas la date de l'enlèvement. C'est la date du jour terrible de l'Éternel. C'est cette date-là qu'on ne peut pas connaître. Mais la date de l'enlèvement, il a dit, vous ne serez pas dans l'ignorance. Vous connaîtrez. Il nous dira, il a dit à ses disciples, il ne vous est pas donné à vous de connaître, parce que ça devait être donné à ceux de la fin. Frères et sœurs, j'attends ça. J'attends qu'il nous le dise. Quand il me le dira, je vous le dirai. Mais en attendant, je crois que nous avons encore du travail à faire sur nous-mêmes, personnellement, moi-même, vous, afin que l'Évangile soit véritablement pas seulement prêché, mais vécu. Que Dieu soit béni. Amen. Merci Seigneur Jésus de nous aider. Je te prie toujours comme ça, à bien comprendre ces choses, pour pouvoir les transformer en pratique. Je sais que l'action, c'est ça, la foi en pratique. Et je te demande, mon Dieu, que nous nous mettions à agir selon tes principes et que nous redevenions des enfants. Et c'est très humiliant d'être des enfants quand on est un adulte. Merci, Seigneur Jésus, de nous aider à être humbles, de ne pas chercher à te comprendre, mais à te croire. Amen. Amen. Amen.